Audiolib présente Victime 2117, la huitième enquête du département V. De Jussi Adler-Olsen. Lu par Julien Châtelet. Ce livre est dédié à Sandra. Les doigts des noyés. La vie des doigts des noyés est plus longue que notre histoire, lointain et si proche. Nous voyons les noyés, nous voyons leur espoir de vivre en paix. Chaque jour, nous voyons le bout de leurs doigts disparaître sous la mer, mais nos yeux ont appris à ne pas voir. Leurs doigts émergent à la surface de la mer, ils se tendent vers le ciel, ils ne sont plus mouillés. Les doigts des noyés sont secs pour l'éternité. Fala Al-Soufi, poète, migrant irakien. Prologue. Une semaine avant que la famille d'Assad ne quitte Sababar, son père l'avait emmené se promener dans le Capharnaüm du souk. Les échoppes regorgeaient de pois chiches, de grenades, de boulgour, d'épices aux couleurs criardes et de volailles caquetantes attendant le fil de la hache. Il s'était arrêté, avait posé les mains sur les épaules maigres de son fils et l'avait scruté longuement de son regard noir et profond. « Écoute-moi bien, mon fils, » lui avait-il dit. « Longtemps tu rêveras de ce moment, et il se passera de nombreuses nuits avant que le désir de retrouver tout cela ne s'estompe de ta mémoire. Mais je t'en conjure, regarde bien autour de toi pendant que tu le peux encore, et emporte tout ceci pour le conserver éternellement dans ton cœur. Est-ce que tu comprends ?» Assad avait serré plus fort la main de son père et avait hoché la tête pour lui faire croire qu'il comprenait. Mais ce jour-là, Assad n'avait pas compris ce que son père avait voulu lui dire. Chapitre 1. Johan. Johan Aïguader n'était pas croyant. Au contraire, quand les processions pascales des catholiques en robe de bure noire envahissaient la Rambla, il s'empressait de quitter la ville. Il possédait une collection de figurines sacrilèges représentant différents papes, ainsi que les rois mages à croupetons, occupés à satisfaire un besoin naturel. Pourtant, ces derniers jours, ce goût pour le blasphème ne l'avait pas empêché de tracer d'innombrables signes de croix sur sa poitrine, car, avec la tournure que prenaient les événements, s'il s'avérait finalement que Dieu existait, il avait intérêt à rester en bon terme avec lui. Lorsque le facteur arriva enfin avec la lettre tant attendue, Johan fit un nouveau signe de croix. Son contenu, il le savait, serait déterminant pour son avenir. 3 heures après l'avoir lu, Johan était assis à la table d'un café dans le quartier de la Barceloneta. Abattu, désespéré, il tremblait malgré la chaleur. Depuis 33 ans, il vivait avec l'espoir ridicule qu'un jour la chance lui sourirait. À présent, il n'avait plus la force d'attendre. 8 ans auparavant, son père avait enroulé un câble électrique autour de son cou et s'était pendu à une conduite d'eau dans l'immeuble dont il était le gardien. Sa mère avait été dévastée par le chagrin. Bien que son père ne fût pas un homme gai et insouciant, elle n'avait pas compris son geste. Du jour au lendemain, Johan et sa sœur, de 5 ans sa cadette, avaient dû s'occuper de tout. Leur mère, elle, ne se remit jamais du drame. À l'époque, alors qu'il n'avait que 24 ans, Johan s'était battu comme il avait pu pour subvenir à leurs besoins. Il s'était tué à la tâche pour terminer ses études de journalisme, tout en cumulant des petits boulots sous-payés qui leur permettaient à peine de joindre les deux bouts. 1 an après la mort de son père, sa mère avait avalé des somnifères, et quelques jours plus tard, sa sœur l'avait imité. L'existence de Johan avait pris un nouveau tournant. Aujourd'hui, regardant en arrière pour la première fois, il songea que son dégoût de la vie n'avait rien d'étonnant. Le néant avait englouti tous les membres de la famille Aïguader, l'un après l'autre. Pourquoi aurait-il dû être épargné? Et de fait, hormis de fugaces moments de bonheur et quelques modestes victoires, la malédiction semblait planer au-dessus de sa tête. Moins d'1 mois après le suicide de sa sœur, sa petite amie